à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 25 octobre 2018. L'état d'urgence de nouveau prolongé d'un an au Mali. Au Cameroun, 10 morts au moins lors de combats récents en région anglophone. Pour la première fois, une femme devient présidente de l'Éthiopie. Elle s'appelle Saleh Work Zewde. Aux États-Unis, Robert De Niro et Joe Biden à leur tour visés par des colis suspects. Après avoir nié la mort de Khashoggi, Riyad reconnaît que c'est un assassinat prémédité. La Minute Éco, les sports, ce sera juste après le journal. De violents combats signalés ces derniers jours en zone anglophone entre l'armée camerounaise et les rebelles séparatistes ont fait au moins 10 morts. Bagassi Koura nous en dit plus.
Selon l'agence Reuters, le porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, a déclaré que l'armée a tué environ 30 séparatistes dans les premiers combats mardi matin près de la ville de Ndou au nord-ouest et libéré 16 otages qui étaient détenus par des rebelles. Il a ajouté qu'un soldat a été tué dans ces combats. Shaw Abaya, chef des forces de défense amazonienne, l'un des principaux groupes sécessionnistes anglophones, conteste ce bilan donné par le ministre Chiroma. Il explique pour sa part que 7 combattants rebelles et 3 soldats de l'armée régulière ont été tués lorsque l'armée a saccagé un de leurs camps. Il s'agit des premiers affrontements depuis l'annonce en début de semaine de la réélection du président Paul Biya pour un 7e mandat. Le conflit entre les séparatistes anglophones qui veulent créer un État indépendant appelé Ambazonie et les forces gouvernementales a fait des centaines de morts depuis l'année dernière.
Au Mali, l'état d'urgence a été de nouveau prorogé d'un an. Il est en vigueur sans interruption depuis l'attaque djihadiste contre un hôtel de Bamako en novembre 2015. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Cette décision, adoptée hier soir en Conseil des ministres, intervient 2 mois après la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'état d'urgence a été décrété après l'attaque contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015 qui avait fait 20 morts outre les 2 assaillants. Il a déjà été prolongé d'un an. Maintenant, il est reconduit jusqu'au 31 octobre 2019 à minuit sur l'ensemble du territoire malien. Il accorde des possibilités d'intervention accrues aux forces de sécurité en matière de fouilles, de restrictions de circulation et de rassemblement. Malgré l'état d'urgence en vigueur depuis 4 ans, les violences djihadistes ont persisté et se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali. Les attaques ont maintenant atteint le Burkina Faso et le Niger voisin. Selon les Nations Unies, depuis le début de l'année, les violences intercommunautaires dans le centre du Mali ont fait plus de 500 morts.
L'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO réclament à la Guinée-Bissau de tenir des élections législatives comme prévu le 18 novembre en appelant toutes les parties à assurer un bon déroulement du scrutin. Les 3 organisations appellent à des efforts renouvelés pour assurer la tenue dans les délais et les conditions requises de transparence, de régularité et de crédibilité des élections législatives. Cette déclaration survient alors que le recensement électoral a été prolongé d'un mois jusqu'au 20 novembre. Au Sénégal, les consommateurs et les représentants des travailleurs du secteur de l'eau réclament des clarifications après l'attribution française Suez de la distribution de l'eau aux dépens de la Sénégalaise des eaux qui prévoit d'introduire des recours. On a un sentiment de déception profonde, a déclaré Eliman Diouf, secrétaire général du SAT-SDE. Le responsable de SOS Consommateur, Massokna Kane, a dit vouloir savoir pourquoi le gouvernement a préféré Suez, qui propose le mètre cube à 298 francs CFA contre 286 francs CFA pour la SDE. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a réclamé au Burundi de respecter les Nations Unies et ses différents organes au lendemain d'un rejet virulent par l'ambassadeur burundais d'un rapport sur les droits humains dans son pays. Les menaces de poursuivre en justice les membres de la commission pour le travail qu'ils ont fait à la demande du Conseil sont inacceptables et doivent être retirées immédiatement, a-t-elle dit. Mercredi, Albert Shingiro a rejeté un rapport biaisé, taillé sur mesure et politiquement orienté avec le seul but de déstabiliser son pays en balayant des témoignages à charge sans aucune crédibilité selon lui. En Éthiopie, les parlementaires ont désigné hier soir à l'unanimité et pour la première fois une femme, Saleh Work Zewde, présidente du pays. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Mais à Addis Abeba, Saleh Work Zewede est à l'heure actuelle la seule femme chef d'État en Afrique. Cette diplomate de carrière est devenue à 68 ans la quatrième présidente en Éthiopie depuis 1995. Elle était jusque-là la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union africaine. Elle a aussi été ambassadrice en France, à Djibouti, au Sénégal et représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'IGAD, le bloc régional est-africain. Lors de son discours d'investiture, elle a salué les réformes réalisées par le Premier ministre Abiy Ahmed et son choix de nommer un gouvernement de parité égale entre femmes et hommes. Sa nomination à ce poste symbolique a été saluée par le Conseil de sécurité à New York et les diplomates réunis pour un débat du Conseil sur les femmes, la paix et la sécurité.
À l'occasion d'une visite à Khartoum du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président soudanais Omar el-Béchir a levé l'interdiction d'importer des produits d'Égypte. À l'issue de ses entretiens avec Monsieur Sissi, il a également annoncé que les deux pays avaient convenu de connecter leur réseau électrique et d'établir une liaison ferroviaire entre le Soudan et l'Égypte. La Commission européenne a signé 4 conventions avec la Tunisie d'une valeur de 270 millions d'euros au premier jour de la visite de son président Jean-Claude Juncker à l'invitation du président belge Haïdé Sepsi. Ces conventions concernent la transition énergétique, l'appui de la réforme fiscale et la promotion socio-économique et solidaire de la compétitivité et du commerce extérieur et l'appui du secteur de la justice.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Psychose aux États-Unis. 11 colis suspects ont été interceptés depuis hier. Les derniers destinataires sont l'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Après avoir appelé la veille à l'unité, le président Donald Trump s'en prend aux médias en disant que leur ton négatif doit cesser. Raissa Girondin nous en dit plus.
Un engin suspect a été découvert à Tribeca, à New York, destiné à l'acteur Robert De Niro, très critique du président américain. Un autre colis a été intercepté, envoyé à l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. En Californie, une élue démocrate au Congrès, Maxine Waters, a reçu un autre colis suspect. Les 11 engins potentiellement explosifs sont identiques et, selon les enquêteurs, pourraient venir du même convoyeur. Tous les destinataires sont des adversaires de Donald Trump et pour le moment, il n'y a aucune revendication. Le premier a été intercepté lundi à New York, au domicile du milliardaire démocrate George Soros. Mardi soir, devant la porte de Bill et Hillary Clinton. Hier mercredi, c'était chez l'ancien président Barack Obama et l'élu démocrate Debbie Wasserman Schultz. Et un autre paquet est arrivé dans les bureaux new-yorkais de CNN. Le président Donald Trump a d'abord appelé à l'unité face à ces actes. Mais hier soir, lors d'un meeting dans le Wisconsin, il a changé de ton. Il a appelé les médias à cesser les hostilités sans fin, les fausses histoires et les attaques constantes. L'atmosphère est plus tendue avant les cruciales élections de mi-mandat le 6 novembre.
Après avoir initialement nié la mort du journaliste saoudien, Riyad a déclaré sur la base d'informations fournies par la Turquie que les suspects avaient commis un acte prémédité. Le prince héritier, le roi Salman, avait reçu Salah et un frère du journaliste mardi au palais royal sous la pression extérieure. À ce propos, le fils de Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul, a quitté l'Arabie saoudite avec sa famille, a indiqué Human Rights Watch, affirmant qu'il se trouvait actuellement dans un avion pour Washington DC. Alors que des milliers de migrants partis du Honduras marchent en direction des États-Unis, le ministre de la Défense, Jim Mattis, s'apprête à envoyer au moins 800 soldats supplémentaires dans la région, selon CNN. Les lois adoptées par les démocrates font qu'il est difficile pour nous de stopper des gens à la frontière, a tweeté ce matin Donald Trump, ajoutant qu'il envoyait l'armée pour cette urgence nationale afin de les stopper. L'OTAN a lancé en Norvège ses plus vastes manœuvres militaires depuis la fin de la guerre froide face à la Russie qui a fustigé un exercice anti-russe. 50 000 soldats, 10 000 véhicules, 65 navires et 250 aéronefs de 31 pays sont engagés dans l'exercice Trident Juncture 18. Les États-Unis fournissent le plus gros contingent avec 9 000 Marines et un groupe aéronaval déployé dans les eaux norvégiennes. Le Parlement européen a appelé à la libération urgente du cinéaste ukrainien emprisonné en Russie, Oleg Sentsov, lui décernant son prix Sakharov 2018, alors que Moscou dénonce une décision totalement politisée. Originaire de Crimée, Sentsov est détenu dans la colonie pénitentiaire russe de Labitnangui, au-delà du cercle polaire arctique. Il a été condamné en 2015 à 20 ans de prison pour terrorisme et trafic d'armes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Raissa Girondin.
Le budget nigérian 2018 devrait bientôt disposer de 6,6 milliards de francs CFA octroyés par la France à travers l'Agence française de développement. Ce financement permettrait au Niger de lutter contre la pauvreté et de se confronter aux exigences du Fonds monétaire international en termes d'équilibre macroéconomique. En 2017, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire est restée excédentaire à près de 3 milliards de dollars, malgré une baisse de 40% des cours mondiaux de son principal produit d'exportation, le cacao. D'après le compte-rendu du Conseil des ministres, cette efficacité s'explique notamment par une bonne performance des produits d'exportation, notamment le cacao, la noix de cajou et le coton-fibre. La politique d'allègement fiscal mise en œuvre par le Kenya depuis 2016 lui a fait perdre près de 2,7 milliards de dollars. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international s'inquiètent du recul des recettes fiscales du pays. Environ 860 millions de dollars échappent chaque année aux caisses de l'État. En 2014, l'épidémie d'Ebola ayant touché plusieurs pays de la région ouest africaine a coûté environ 53 milliards de dollars aux économies de la région. L'étude publiée dans Journal of Infectious Diseases indique que le coût global de la flambée d'Ebola en 2014 est plus dévastateur que le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, en 2003 et l'éclosion du virus Zika dans les Amériques entre 2015 et 2016.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par les matchs de poule ce soir en Europa League.
Oui Nathalie, plein de matchs sont en cours. 0-0 pour le moment dans le choc entre l'inarrêtable Arsenal et le Sporting Portugal invaincu en Ligue Europa jusque-là. L'AC Milan est mené 1-0 par le Betis Séville. 1-0 également pour Bordeaux sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg. Un peu plus tard, l'OM finaliste la saison dernière, mais qui a complètement raté ses débuts européens cette saison, entrera en lice. C'est la Lazio Rome qui attend les Olympiens.
Et on observe un recul de la République démocratique du Congo au classement FIFA.
Et oui, les matchs des éliminatoires de la CAN 2019 octobre 2018 ont provoqué quelques changements notables dans le baromètre établi par la Fédération internationale de football. Pour le mois de novembre 2018 en tout cas, les Tunisiens qualifiés pour la 14e fois de suite en Coupe d'Afrique restent premiers à l'échelon continental, passant simplement de la 23e à la 22e place mondiale. Et les Sénégalais, eux aussi qualifiés pour la CAN 2019, sont toujours la deuxième meilleure équipe africaine avec la 25e place mondiale. En revanche, les Congolais ont cédé du terrain, reculant du 40e au 46e rang. La faute à des contre-performances face au Zimbabwe, une défaite à domicile et un match nul à l'extérieur. Du coup, les Nigériens 44e sont passés devant. Au niveau général, la Belgique est seule en tête devant les champions du monde français. À noter que Madagascar, qui disputera la première phase finale de la Coupe d'Afrique de son histoire, 100e ce mois-ci, intègre le top 100 pour la première fois depuis 1993.
Et la FIFA se penche demain à Kigali sur l'avenir du football mondial.
Les membres de la FIFA vont se réunir pour discuter des nouvelles compétitions internationales souhaitées par le président Gianni Infantino. La création d'une version miniature de la Coupe du Monde avec 8 équipes remplacerait l'actuelle Coupe de la Confédération. Le mondial des clubs organisé à 7 équipes passerait à 16 ou 24 équipes tous les 4 ans.
On termine par la NBA, championnat de basket nord-américain.
Stephen Curry a conduit Golden State à une nette victoire face à Washington 144-122 en marquant 51 points la nuit dernière.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Face à l'insécurité au Mali, la prorogation de l'état d'urgence n'aura pas d'effet à Tombouctou. Les populations sont plus préoccupées par la situation sécuritaire avec les militaires maliens casernés, les forces internationales cantonnées et la population livrée à elle-même. Selon un constat de notre correspondant Kassim Traoré, qui est en séjour à Tombouctou.
Tombouctou est l'une des rares villes au monde située entre le fleuve et le désert. La capitale des 333 saints est confrontée à d'énormes difficultés. Djadji Amadou Maïga de la société civile.
On a l'impression d'être dans une prison à ciel ouvert. Parce que la prison, elle est fermée, elle ne permet pas de sortir. Mais nous, nous avons l'impression d'être libres alors que nous ne sommes libres de rien. On n'est pas libre de nos mouvements, on n'est pas libre de nos actions, on n'est pas libre de nos idées, on n'est même pas libre de notre conscience. Parce que des influences multiples font que notre conscience même est quelque peu touchée dès lors où il se passe autour de nous un certain nombre de choses qui sont inimaginables.
Région d'agriculture, de pêche et d'élevage, mais faire écouler ces produits sur d'autres marchés devient difficile. Touré Fadimata Tandina de la CAFO.
Ce que nos produits ne peuvent pas être écoulés, vu qu'on ne peut pas se déplacer. Et ce que nous subissons, c'est que l'insécurité fait que nos forains ne peuvent pas quitter Tombouctou pour aller faire les jours de foire, aller dans les villages voisinants pour faire le marché, sous peine de se faire braquer ou de se tirer dessus ou au pire perdre sa vie. Donc l'insécurité est un goulot d'étranglement pour les femmes de Tombouctou aujourd'hui.
Les transporteurs sont plus souciés car le prix du transport a doublé, voire triplé sur l'axe Bamako-Tombouctou. Tamba Doukouré, transporteur.
Bamako est Mopti 9 000 francs. Mopti et Tombouctou 35 000 francs, moins de 35 000 francs en bâton. Ça c'est 50 000 francs. Aller-retour 100 000 francs. Un pauvre Tombouctien qui est en train de souffrir. Il dit qu'il faut aller à Tombouctou et revenir 100 000 francs. 10 mois 200 000 francs. Qu'est-ce que tu peux aller? Donc il faut que, comment les transports étaient à 15 000 francs et aujourd'hui on est à 50 000 francs. Quelle autorité peut exprimer ça? Et vous dites que vous êtes en train de gérer les problèmes. Quel problème que vous êtes en train de gérer?
À la question de savoir si la prorogation de l'état d'urgence est une solution pour l'insécurité à Tombouctou, la réponse est la suivante.
À Tombouctou, non. Tombouctou, on ne sent pas. Parce que quand on parle de l'état d'urgence, les militaires même sont cantonnés ici. Donc on peut parler de quoi? Comme état d'urgence. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. On peut venir ici attaquer quelqu'un. Personne ne gronde. Donc ça veut dire que l'état d'urgence n'a pas d'impact. La prolongation de l'état d'urgence n'a pas d'impact sur la ville de Tombouctou. Les Tombouctouciens même ne pensent même pas à ça.
Djadji Amadou Maïga de la société civile pense que l'état a démissionné face à la situation de Tombouctou.
En se trouvant dans un certain nombre de situations, devant des autorités qui disent être engagées pour la paix, pour la tranquillité, pour la stabilité de la ville et même de la région, rien de cela ne se passe. Donc cela donne des inquiétudes et nous nous posons la question de savoir, mais qui on veut berner? Et quelles dispositions l'autorité est en train de mettre en œuvre pour que les populations se sentent en sécurité? Si vous partez par la route, on vous arrête, on vous braque, on vous rançonne. Si vous partez par le fleuve, c'est la même chose. Et l'avion ne vient plus. Donc il n'y a aucun moyen, en dehors de la MINUSMA qui est là et qui est là pour ses activités.
Dans la ville de 333 saints, beaucoup de gens sont désespérés à cause de l'insécurité. Car aucune activité génératrice de revenus ne peut prospérer dans cette situation. Tombouctou, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur la réélection du président camerounais Paul Biya. Âgé de 85 ans, dont près de 36 au pouvoir, il a été reconduit pour un mandat de 7 ans avec plus de 71% des suffrages. Et des résultats contestés par plusieurs partis d'opposition qui ont dénoncé des fraudes, mais ont vu leur recours rejeté par le Conseil constitutionnel. Cette présidentielle a toutefois suscité un intérêt sans précédent auprès d'une grande partie de la population. Au sortir de ces élections, et qu'attendre de ce mandat alors que le président Biya a déjà passé plusieurs décennies au pouvoir? Morgane Gaillac en votre compagnie, je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel. Les parlementaires éthiopiens ont désigné à l'unanimité pour la première fois une femme. Saleh Work Zewde, présidente du pays après la démission de celui qui occupait jusqu'à présent ce poste essentiellement honorifique et symbolique. Le pouvoir étant principalement délégué au Premier ministre. Pour une analyse, Ekia Badou a joint à New York Tsige Chifero, une ancienne journaliste d'origine éthiopienne.
La symbolique, c'est tout simplement que le Premier ministre actuel continue sa politique d'intégrer les femmes dans la vie politique du gouvernement, dans la vie politique du pays. Cela indique que les femmes comptent, que leur opinion compte. Ceci étant dit, elle est présidente, elle n'est pas Premier ministre, donc son rôle est purement symbolique. Maintenant, à voir s'il la consultera pour certaines questions, notamment d'ordre diplomatique, puisque c'est son domaine d'expertise à Madame Saleh Work Zewde.
Qu'est-ce qu'elle peut apporter au niveau de la diplomatie ?
Disons qu'elle a une excellente connaissance du continent africain, puisqu'elle a été pendant plusieurs années directrice du Bureau Afrique sous le régime de Malala Zenawi. C'est une ancienne ambassadrice. Et pendant cette période où elle était directrice du Bureau Afrique au ministère des Affaires étrangères, elle avait constitué une très très forte liaison avec quasiment tous les diplomates qui représentaient leur pays auprès de l'Union africaine. J'en ai été témoin à plusieurs reprises, puisque nous nous connaissions. C'est quelqu'un qui était très au courant de ce qui se passe et les diplomates allaient souvent vers elle pour avoir une idée de ce que son gouvernement comptait faire sur certaines questions. Et puis, elle a aussi avec elle son expérience onusienne qui ne peut que être bénéfique pour un Premier ministre qui, au niveau international en tout cas, n'a peut-être pas l'expérience nécessaire.
Dans les mentalités, justement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir peut-être une évolution grâce à cette parité, le fait de voir que des femmes sont capables ? Est-ce que c'est un signe qui peut vous donner un optimisme quelconque ? En tout cas, une envie de voir les lignes bouger ?
J'ose l'espérer. C'est quand même quelque chose de nouveau. C'est un gouvernement qui est jeune, pour une population qui est extrêmement jeune. Donc ce sont des nouveaux repères pour une société dont la moyenne d'âge est autour de 25 ans, si ce n'est moins. Donc c'est un nouveau modèle à suivre. On a l'impression, je parle peut-être avec beaucoup d'optimisme, mais on a vraiment l'impression qu'une page de l'Éthiopie de l'Éthiopie a été tournée, où on a à présent un leader avec un état d'esprit ouvert, contrairement à ses prédécesseurs qui n'ont pas toujours fait preuve d'ouverture d'esprit envers leur propre population.
C'était la journaliste américano-éthiopienne Tsige Chifero.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, le personnel soignant du centre de traitement à Baraka s'inquiète de nombreux cas de choléra. En moyenne, 7 nouveaux cas sont admis par jour et Médecins sans frontières estime que l'on est en pleine phase épidémique. Baraka est située à plus de 200 km au sud de Bukavu. Notre correspondant Ernest Mouero s'est rendu sur place.
Sous une chaleur suffocante des Baraka, les choléras rongent à petit feu la population. Les interventions en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement sont encore insuffisantes. Bora Assoumani est une habitante des Baraka. Selon elle, le gouvernement fait des efforts, mais les besoins ne sont pas tous couverts.
Les problèmes d'eau, c'est grave. On peut servir aujourd'hui un quartier, demain l'autre quartier. Il y a des puits qui ne donnent pas de l'eau. Si tu n'as pas eu de l'eau, tu seras toujours obligé d'aller au lac. Et les enfants qui ne savent pas quelle est l'eau qu'on peut boire, quelle est l'eau qu'on ne peut pas boire, ils prennent même de l'eau du lac pour boire ça.
Médecins sans frontières suit de près la maladie et assiste la population aux côtés des services du ministère congolais de la Santé. Igor Rugenyeka est responsable des activités médicales externes au sein des MSF à Baraka.
C'est vrai que nous vivons la situation de façon endémo-épidémique depuis le mois de janvier, mais à la 20e semaine, les cas étaient quand même gérables. Mais après la semaine 21-22, c'était passé au seuil épidémique. Et là, on se bat avec cette épidémie depuis maintenant plus de 20 semaines. Il faudra savoir qu'il y a des mesures qu'il faut mettre en place pour essayer d'utiliser les eaux des rivières ou l'eau des lacs. Et ce sont ces mesures parfois qui sont difficiles à la communauté, étant donné qu'ils doivent utiliser la même eau pour boire, pour tous les travaux ménagers. Ça devient compliqué.
Au centre de traitement des choléras, plus de 1000 malades ont déjà été soignés depuis le début de l'année sans enregistrer des décès. Mais les problèmes ne concernent pas que Baraka. Will Van Roekel, coordinatrice médicale de MSF Hollande, appelle à une approche préventive plus durable, impliquant d'autres intervenants en synergie.
MSF se sentir seul de temps en temps, et ça c'est pas bon. Notre expertise c'est pour traiter les malades. Mais en même temps, il y a d'autres choses qui sont nécessaires pour prévenir. Et pour ça, ça c'est le plaidoyer. C'est vraiment important, tout le monde travailler main à main, tous les ONG et le ministère de santé pour arrêter ces maladies.
Pour toute la zone de santé de Fizi, Médecins sans frontières a déjà soigné plus de 11 000 malades du choléra de 2014 à 2018. Des malades rencontrés en plein traitement au CTC disent se sentir de mieux en mieux. L'infirmier de ce centre, Albert Mbeo Mwetumbula, reste optimiste.
Il n'y en a pas de rupture des médicaments aussi ici au CTC. Donc le seul conseil qu'on peut donner à la population de Baraka, la respect des règles d'hygiène tout simplement.
Ernest Mouero depuis Baraka à 210 km au sud de Bukavu pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, de nouveaux colis suspects ont été envoyés. L'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden ont été visés. Le président Donald Trump a accusé les médias d'être en grande partie responsables de la colère dans la société américaine. Ces colis qualifiés de potentiellement explosifs peuvent-ils influencer les élections du 6 novembre aux États-Unis ? Claire Morin-Gibourg a joint l'ancien diplomate et président de Global Situation Room, Brett Bruen.
Malheureusement, je crois que on voit des deux côtés certains avantages. C'est-à-dire, il y en a dans la partie républicaine qui vont dire il faut aller voter pour empêcher ce type d'action. Et il y en a à côté démocrate qui vont dire nous avons besoin de changer le gouvernement, alors on va aller voter. Je crois que nous restons dans cette même division qui existait auparavant. Le problème, c'est que la distance entre les deux côtés, c'est beaucoup plus loin.
D'une certaine façon, cela renforce les extrêmes de chaque côté?
On peut dire que ça renforce les extrêmes. On peut dire que même les voix extrêmes auront plus de puissance parce que dans ces moments de crise, on écoute plutôt aux voix qui représentent les préférences des uns et des autres. C'est-à-dire, dans les réseaux sociaux, on va voir que, comme ailleurs, certaines voix qui disent qu'il n'y a pas de preuves, c'est juste une chose que les démocrates ont inventée pour les aider. C'était le cas hier que une bonne partie des gens à l'extrême droite ont croyé ces commentaires. À l'autre côté, on voit que les démocrates sont assez agressifs en mettant le doigt vers le président et le coupé pour ses actions. Je crois qu'il faut avoir plus de voix indépendante, calme, et il y a une certaine responsabilité au niveau de la presse, pour ne pas créer ou ajouter à cet environnement plus de will, mais en même temps, bien sûr, il y en a des journalistes qui se sentent assez vulnérables, assez en danger en ce moment, et à cause de ça, je crois qu'il y en a qui voudraient trouver la façon par laquelle on pourrait changer cet environnement. Et si vous voulez, la presse, c'est devenu un acteur dans ce drame.
C'était l'ancien diplomate Brett Bruen, président de Global Situation Room. Et c'est la fin de notre émission. Elle était mise en onde par Georges Léonard Sagnot et Nashwan Calais à la console. On vous souhaite une très bonne soirée à tous en compagnie d'Henri Francisque pour un rappel sur l'actualité dans le monde.
VOA Afrique, les infos.